Le journal de Mariam El Kurdi. Bonsoir Mariam.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence avec un ministre dans la tourmente.
Oui, Éric Dupond-Moretti a des ennuis avec la justice. Le garde des Sceaux est convoqué le 16 juillet devant les magistrats de la Cour de justice de la République. Il est soupçonné d'avoir profité de ses fonctions de ministre de la Justice pour intervenir dans des dossiers dans lesquels il était auparavant avocat. Au sommaire également, le maire LR de La Baule s'inquiète avec l'arrivée massive des touristes. Il demande des moyens supplémentaires au gouvernement pour la vaccination anti-Covid. Eux aussi pointent du doigt un sérieux manque de moyens pour sauver des vies. Les membres de l'ONG Ocean Viking, opération délicate sur les côtes tunisiennes pour secourir les migrants. On ira également aux assises de Loire-Atlantique dans ce journal, au procès Troadec, Fabienne.
À 18h15, un jour dans le monde, ce soir, à la veille de l'ouverture du Festival de Cannes, nous allons nous interroger sur l'état du cinéma mondial post-Covid. Est-ce un homme malade qui fait son retour? Jusqu'à quel point la crise a redessiné les modèles de distribution? Y a-t-il encore de la place cette année pour produire, si l'on considère qu'il y a d'abord un goulet d'étranglement avec les films en attente? On verra ça dans un instant. 19h20, c'est le téléphone sonne et la question qui fâche et qui est sur toutes les lèvres: faut-il imposer la vaccination aux soignants? Faut-il même l'imposer à plus large aisselle? Le gouvernement n'a pas tranché encore, mais les discussions sont bien là. Vous avez peut-être entendu sur France Inter le professeur Delfraissy dire qu'il avait changé d'avis lui-même. Comment convaincre ceux qui ont peur? Ce Covid et son variant Delta est-il un facteur de fracture dans notre pays? Ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter.
Le garde des Sceaux donc convoqué devant la justice.
Oui, Éric Dupond-Moretti a rendez-vous le 16 juillet précisément devant les magistrats de la Cour de justice de la République en vue d'une mise en examen. Convocation remise en marge de la perquisition qui a eu lieu jeudi dernier au ministère de la Justice, place Vendôme à Paris. Le garde des Sceaux est soupçonné d'avoir profité de ses fonctions de ministre de la Justice pour intervenir dans des dossiers dans lesquels il était auparavant avocat. L'enquête dure depuis 7 mois. Elle porte sur des soupçons de prise illégale d'intérêt. Elle fait suite à la plainte de 3 syndicats de magistrats et de l'association Anticorps déposée en décembre 2020. Bonsoir Yael Gauze.
Bonsoir.
Demain, Éric Dupond-Moretti fêtera son premier anniversaire place Vendôme et c'est un coup dur politiquement.
Bah oui, une convocation, ça fait des ordres alors même que le ministère a organisé ce matin un point presse pour vanter son bilan pêle-mêle en un an. Un budget en hausse record, plus 8%, 17 textes votés, des moyens pour la justice de proximité, le « tu casses, tu répares » comme alternative aux poursuites, etc. etc. Et patatras, le ministre de la Justice bientôt devant la CJR, c'est inédit. Éric Dupond-Moretti s'attend à une mise en examen, c'est quasi automatique dans ce genre de dossier, soupçon de prise illégale d'intérêt. Ses proches pestent contre cette qualification qui veut tout et rien dire. Le garde des Sceaux n'a pas piqué dans la caisse, se fâche l'un de ses amis, très remonté contre les syndicats de magistrats qui, dès sa nomination, lui ont déclaré la guerre. Ces deux enquêtes sur le PNF et le juge Édouard Levrault, le garde des Sceaux, les a diligentées, nous dit-on, en suivant son administration, composée elle-même de magistrats. Reste à gérer la tâche politique de cette probable mise en examen. À titre personnel, me confie un ministre. Et vu son statut, ce sera difficile de rester en poste. Sauf que le président déteste les chasses à l'homme, rétorque un proche d'Emmanuel Macron. Ne spéculez pas sur sa fragilisation. Après l'échec des régionales, Akitator n'a pas fini de plaider sa cause et prépare déjà les états généraux de la justice prévus à l'automne.
Merci Yael Gauze, chef du service politique de France Inter. Alors qu'on commence à reprendre une vie presque normale, ce rappel de Gabriel Attal sur France Inter, une quatrième vague épidémique dès la fin juillet est une possibilité. Le porte-parole du gouvernement confirme la mise en garde du ministre de la Santé, Olivier Véran. Et Gabriel Attal parle chiffres et données à l'appui. Depuis un peu moins d'une semaine, l'épidémie regagne du terrain. Le variant Delta est particulièrement contagieux et inquiétant. Il double presque chaque semaine et représente désormais 30% des contaminations. Une autre donnée qui inquiète le gouvernement, seulement 57% des soignants sont vaccinés contre la Covid en EHPAD, 64% à l'hôpital selon la Fédération hospitalière de France. Alors faut-il rendre la vaccination obligatoire pour les soignants? La décision sera sans doute prise cette semaine après une grande consultation lancée par le Premier ministre. Jean Castex donne rendez-vous jeudi à des élus locaux. Les patrons des groupes parlementaires ont déjà été consultés par écrit par Matignon. L'idée est loin de faire l'unanimité. Les chefs de file du MEDEF et de la CFDT y sont favorables. La CGT appelle à convaincre plutôt que de contraindre. Et au-delà des soignants, l'idée d'une vaccination obligatoire tout court progresse chez certains infectiologues. En attendant, le maire LR de La Baule demande, lui, des moyens supplémentaires au gouvernement pour la vaccination dans sa ville. La station balnéaire de Loire-Atlantique va accueillir beaucoup de monde cet été. Et maintenant que les touristes peuvent se faire vacciner sur leur lieu de vacances, le besoin de doses supplémentaires se fait ressentir urgemment, selon lui. En effet, le ministre de la Santé a annoncé il y a tout juste 3 jours qu'on pouvait prendre rendez-vous pour sa 2e dose de vaccin dans un autre lieu que pour la première. Une annonce d'Olivier Véran un peu tardive, selon le maire de La Baule, Franck Louvrier.
C'était une évidence, c'est dommage que ces décisions aient été prises un petit peu au dernier moment, parce que comme vous avez des villes balnéaires comme les nôtres, qui passent de 17 000 à 180 000 habitants l'été, vous imaginez bien que, heureusement que les maires ont déjà prévu d'avoir un dispositif de vaccination qui puisse être élastique et s'adapter à la demande qui va être très importante. Mmh. C'est sûr que les centres de vaccination à Paris vont être fermés au mois d'août et les gens vont plutôt se vacciner chez nous. Alors, donc nous demandons au gouvernement très clairement des moyens supplémentaires, à la fois en dose et en personnel, pour pouvoir avoir la possibilité de passer de 1000 injections par jour, ce qui est le cas aujourd'hui, à 2000 injections par jour. C'est suivre en fin de compte la migration de la population. Vous mettez bien des forces de sécurité supplémentaires dans les villes balnéaires pour protéger les habitants. Bah, c'est la même chose en termes de protection, mais la sanitaire, il faut mettre plus de moyens dans les villes balnéaires qui sont concernées par ce nombre de populations qui augmente.
Le maire de La Baule en Loire-Atlantique, Franck Louvrier, le vaccin de Sanofi pourrait être un atout pour arriver à un niveau de vaccination plus élevé, estime ce soir l'économiste de la santé, Nathalie Coutinet. Le vaccin développé par le laboratoire français en collaboration avec le britannique GSK devrait être disponible en décembre, a précisé aujourd'hui le président France du laboratoire. Après un retard de plusieurs mois, il est désormais en phase d'essai massif, dit de phase 3. En Angleterre, 8 personnes sur 10 ont reçu au moins une première dose de vaccin. Le Premier ministre Boris Johnson doit lever le voile ce soir sur la levée des dernières restrictions sanitaires, notamment les mesures qui concernent la distanciation sociale, le port du masque et le télétravail, Fabienne.
Au moins 21 personnes retrouvées mortes au large dans le centre de la Tunisie.
Au large de Sfax, oui, dans le centre de la Tunisie. Après le naufrage de leur bateau, les migrants à bord tentaient de rallier clandestinement l'Europe. L'Ocean Viking, le navire de secours de SOS Méditerranée, compte désormais 572 rescapés à son bord. La nuit dernière, 369 nouveaux migrants ont été sauvés dans les eaux libyennes. Les sauveteurs avaient repéré un grand bateau en bois en détresse. Pour l'ONG, c'était la 6e opération en quelques jours. Bonsoir Rémi Brancato.
Bonsoir.
L'ONG qui alerte sur le manque de moyens de secours en Méditerranée.
Oui, car à bord de l'Ocean Viking, où on dénombre actuellement 572 exilés, les derniers secourus se trouvaient, vous le disiez, à bord de cette embarcation en bois prête à chavirer. Il faut gérer le traumatisme pour la trentaine de membres de l'équipage qui tentent de leur venir en aide dans des conditions précaires, difficiles, décrit Fabienne Lassalle, la directrice adjointe de SOS Méditerranée.
La situation peut partir dans une mauvaise direction à tout instant. C'est des tensions qui peuvent naître, c'est une peur de ne pas pouvoir être amené dans un port sûr qui pourrait amener certains à sauter par-dessus bord. Ça, on l'a déjà vécu par le passé. La situation là ne peut pas durer plus longtemps. Il faut que les autorités nous désignent un port pour pouvoir débarquer ces personnes.
L'Ocean Viking n'a pas eu de réponse pour l'instant et SOS Méditerranée alerte sur la multiplication des départs d'embarcations depuis la Libye notamment, avec une météo plus clémente en mer.
Il y a urgence à déployer des moyens supplémentaires pour aller secourir d'autres embarcations, puisque là, aujourd'hui, le Ocean Viking est le seul navire sur zone. S'il retourne en Europe, en Italie, pour aller débarquer ces personnes, eh bien, il n'y aura à nouveau plus de navires pour aller secourir. On le sait déjà, ce sont des morts en prévision.
Car les drames se multiplient déjà. En tout, plus de 60 migrants ont été retrouvés morts par les gardes-côtes tunisiens ces 3 derniers jours.
Merci Rémi Brancato. Et justement, pendant ce temps, en Italie, Médecins sans frontières appelle les autorités italiennes à relâcher son navire de secours aux migrants immobilisé durant le week-end, selon l'ONG. Les infractions techniques reprochées au bateau ne sont qu'un prétexte pour interrompre ses activités.
Des courgettes, des poivrons, des asperges maquillées frauduleusement en bleu, blanc, rouge.
Oui, un grossiste en fruits et légumes des Bouches-du-Rhône est accusé d'avoir fait passer pour des produits français des centaines de tonnes de légumes espagnols. Il est au cœur d'une vaste enquête. Une opération de contrôle de la répression des fraudes et de la gendarmerie d'Arles vient d'être menée. L'homme aurait tout simplement remplacé les étiquettes et les factures pour faire croire que les produits étaient français. Précision avec Fabien Leduc de France Bleu Provence.
Ce grossiste est suspecté d'avoir importé d'Espagne plusieurs centaines de tonnes de fruits et légumes en 2 ans. Il retirait les étiquettes « Origine Espagne » pour les remplacer par une « Origine France ». Idem pour les factures, impossible alors de déterminer l'origine exacte des produits quand il les revendait à ses clients. Des courgettes, des poivrons, des courges, des asperges que l'on retrouvait sur les étals des supermarchés. Un tour de passe-passe qui peut rapporter gros. En juin dernier, par exemple, le kilo de poivrons espagnols se négociait 2 euros contre 3 euros pour le poivron français. Une tromperie sur la marchandise qui surfe sur la tendance du consommer local au détriment des grossistes qui respectent les règles du jeu, des consommateurs et des agriculteurs locaux. Lorsqu'elle est établie, cette pratique peut aussi coûter très cher aux fraudeurs, 2 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende.
Et une enquête est toujours en cours. Un homme vient d'être déféré cet après-midi à Toulouse devant le juge d'instruction en vue de sa mise en examen pour tentative d'homicide volontaire aggravé. Il a asséné un coup de couteau à sa compagne samedi à Toulouse. La victime d'une quarantaine d'années est grièvement blessée. Son pronostic vital est engagé. Le procès 3ADEC arrive à sa fin devant la cour d'assises de Loire-Atlantique. Hubert Caouissin et son ex-compagne Lydie 3ADEC comparaissent depuis 10 jours pour le meurtre de 4 membres de leur belle famille en février 2017 à Orvault, près de Nantes. Demain auront lieu les plaidoiries des parties civiles et les réquisitoires. Et aujourd'hui, une dernière fois, la cour d'assises a essayé de comprendre les motivations des accusés, Corinne Audouin.
Les accusés ont écouté pendant des heures psychologues et psychiatres disserter sur leur cas. Hubert Caouissin présente un délire chronique extrêmement bien structuré. Un cas d'école à présenter aux étudiants en médecine, a expliqué le docteur Coutenceau. Pour l'expert, l'hypothèse d'une simulation est impossible. N'invente pas un délire qui veut, dit-il. Quant à Lydie Troadec, elle est partie prenante de cette folie à deux, mais l'inducteur, c'est Hubert Caouissin, selon le docteur Bensoussan. Interrogé Lydie Troadec acquiesce, Hubert racontait les choses de façon tellement raisonnée, bien étayée. J'avoue qu'il est plus intelligent que moi. J'ai cru réellement à cette histoire d'or, dit-elle d'une voix plaintive. C'est dur pour moi d'avoir cru à une telle absurdité. C'est complètement délirant, j'allais dire débile. À ses côtés, Hubert Caouissin commente : j'ai une structure mentale qui est différente. Je suis construit comme ça. Je peux pas sortir de ma croyance. Lydie, je pense que je l'ai contaminée. Je regrette, dit-il d'une voix plate. Demain matin, la parole sera aux parties civiles, dont les avocats plaideront pour les absents, cette famille de 4 personnes, effacées, éradiquées pour une chimère. Nantes, Corinne Audouin, France Inter.
Ils sont connus pour leur engagement contre le racisme, mais là, la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux ne fait pas vraiment honneur aux attaquants de l'équipe de France, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé. Ils sont accusés de racisme envers des membres de personnes d'un hôtel. Ils ont été obligés de présenter leurs excuses aujourd'hui sur les réseaux sociaux. La vidéo date de 2019, mais elle refait surface. Et ça se passe au Japon, Baptiste Flippot.
Dans cette courte vidéo, on voit les deux joueurs du Barça face à 4 employés d'un hôtel qui s'affairent pour installer un jeu de simulation de football sur le téléviseur de leur chambre. On entend d'abord la voix d'Ousmane Dembélé se moquer ouvertement du personnel.
Toutes ces sales gueules pour jouer à PES, c'est pas honte.
Sur le côté de l'image, Antoine Griezmann se retourne et se contente de sourire en entendant les mots de son coéquipier. On ne sait pas pourquoi cette vidéo ressort aujourd'hui, mais leur attitude a provoqué de vives réactions. Ce week-end, l'Association des jeunes chinois de France a pointé, je cite, une immaturité et un manque de respect de la part des deux joueurs. Face à la polémique, ils ont publié un communiqué. Ousmane Dembélé explique, je cite, « La scène se passe au Japon, mais elle aurait pu se dérouler n'importe où sur la planète. Je ne visais aucune communauté et il m'arrive d'utiliser ce genre d'expression en privé. » Connu pour ses prises de position contre le racisme ou l'homophobie, Antoine Griezmann rappelle, lui, qu'il est toujours engagé contre toute forme de discrimination. Ce n'est pourtant pas la première fois que l'attaquant du Barça est accusé de racisme. Il y a 4 ans, il s'était grimé en noir pour se déguiser en basketteur. C'est ce que l'on avait appelé l'affaire du blackface, et face à la polémique, il avait aussitôt regretté son geste.
Baptiste Flippot, le metteur en scène portugais Tiago Rodrigues, 44 ans, s'apprête à prendre les rênes du prestigieux Festival d'Avignon. Il a été nommé aujourd'hui, prise de fonction prévue en septembre 2022. Il va devenir le premier étranger à diriger la plus célèbre manifestation du théâtre du monde avec le Festival d'Édimbourg. Une revanche pour celui à qui on disait 25 ans, il y a 25 ans, tu n'es pas fait pour ça. C'est ce qu'il avait entendu de la bouche de ses professeurs du Conservatoire de Lisbonne. Nous l'entendrons dans le journal de 19h, Fabienne.
Merci beaucoup, Mariam. On se retrouve évidemment tout à l'heure dans Sous les radars. Vous nous parlerez notamment d'un public très particulier lors d'un concert au Danemark.
Effectivement.
Ce soir, on s'intéresse à l'état du cinéma mondial à la veille de l'ouverture du Festival de Cannes. Et puis au téléphone, sonne, allez-y, le standard est ouvert. On pose la question qui alimente vos conversations. À n'en pas douter, faut-il imposer la vaccination aux soignants et même au-delà, d'ailleurs. Alors, peut-on encore convaincre? Qu'est-ce qui fait que certains, au-delà des antivax et leur théorie de rien, qu'est-ce qui fait que certains ont encore peur? Qu'est-ce qui vous fait peur alors que le discours sur le variant indien nous promet une hausse des cas avant la fin de l'été? Ça se passe comme d'habitude au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel peut-être.
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Élodie Calac, bonsoir. Vous nous annoncez un coup de vent près de la Manche, Élodie.
Oui, bonsoir. En effet, ce soir et cette nuit, le vent va se renforcer de la Bretagne jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, jusqu'à 90 km à l'heure dans les terres, 110 sur les côtes avec de fortes vagues. On a des pluies et des averses orageuses qui circulent sur l'ouest, le centre, le nord, ce soir et cette nuit. Demain, ces pluies parfois orageuses s'étendront de l'Auvergne et des Alpes au nord-est. Elles seront marquées en particulier du côté du Lyonnais. Et puis en allant vers le sud-ouest, des pluies également, mais plus faibles et plus irrégulières, Fabienne.
Et sur le nord-ouest, Élodie, des averses.
Et oui, un ciel d'averse, parfois même avec de l'orage, jusqu'en Île-de-France, jusqu'au nord de la Seine également, toujours avec du vent fort sur les côtes de la Manche. Pour avoir un beau soleil, on ira vers la Provence, la Côte d'Azur et la Corse. Et puis les températures, elles seront en baisse sur la plupart des régions. Il fera souvent 17 à 23 degrés, mais encore 27 à 32 en Méditerranée.
Et Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup. Élodie, à tout à l'heure, après 19h.